Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française, inclusive au maximum. 22h, 23h, nous sommes en direct sous les lumières du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Une émission à podcaster, évidemment, parce que ce soir, nos invités sont Fred Nefché et Katel. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Katel de retour avec un quatrième album passionnant, Mutant Merveille, un album coupé en deux, articulé autour de la reprise bizarre d'un titre de Gainsbourg pour France Gall, avec des inventions sonores, surtout dans la deuxième partie qui ose tout, la dissonance, la septième dominante, sans oublier des textes, oui, politiques, mais supra-métaphoriques, une réussite. À ses côtés, Fred Nefché co-signe un album tout aussi ambitieux, The Unreal Story of Floride, mon accent est pourri, mais tant pis, une traversée littéraire et électronique dans l'univers transgressif de Lou Reed. Attention, ce n'est pas du tout un biopic, mais plutôt un support de fantasme. Marion ?
The Liminianas, de retour. Ils ouvrent une fenêtre dans leur mur du son avec une collaboration inattendue et réussie avec Laurent Garnier. Nouveau titre à découvrir avec eux vers 22h30.
Voilà, vous savez à peu près tout. Alors maintenant, on entend tout. Bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre avec Rover, qui sera notre invité lundi prochain. Troisième album, enregistré dans des conditions très particulières. Rover s'est enfermé dans les anciennes glacières Saint-Gilles de Bruxelles. Une immense pièce glacée qui a pu servir de repère à un club de boxe dans le passé. Alors ça donne un album de pop sophistiqué avec ce premier titre, To This Tree, sur France Inter.
To your tree.
Catel et Fred Nefché sont nos invités ce soir avec la première question, la question inaugurale. Faut-il vous présenter ? Vous vous connaissez déjà l'un l'autre ?
Non, on se connaissait déjà.
C'est vrai ?
Oui, on se connaissait déjà. Oui. Oui.
À quel niveau ? Vous aviez partagé des scènes ?
J'ai toujours été très sensible à sa musique et je me souviens qu'une fois, elle avait voulu organiser un concert à Marseille, comme j'habite là-bas, et on était resté sur ce truc inabouti, mais j'ai toujours voilà. Puis j'aime beaucoup les gens qu'elle fréquente, les gens avec qui elle joue, et j'ai été ravi de découvrir son album cet après-midi. Ouais. Voilà.
Donc voilà, vous pourriez dire à peu près la même chose.
Bah oui, et puis c'est vrai qu'on a des gens en commun, même si on s'est finalement, nous, assez peu rencontrés, mais...
Vous avez qui en commun ? Des musiciens ?
Ah oui.
Dans l'environnement, j'ai appris tout à l'heure que notamment le guitariste qui joue sur mon album et avec moi sur scène, Christophe Rodomisto, joue sur les deux premiers albums
De Fred Nefché.
Tatiana Mladenovic à la batterie.
Oui, aussi Tatiana, ouais. Oui, c'est compagnons avec qui j'ai fait un bout de chemin et des compagnons merveilleux.
Bah, ça m'étonne pas parce qu'en même temps, c'est vrai que vous commencez à peu près à la même période, en tout cas dans la publication du premier album, 2008-2009. Quel type de musique vouliez-vous défendre à vos débuts quand vous publiez ça ? Parce que tous les deux, vous êtes à la croisée de plusieurs registres. Vous, ça serait entre le rock, le slam et la chanson, pour vous, Fred Nefché. Et aujourd'hui, quand je regarde votre album, Catel, ça serait pop, chanson, hip-hop, musique savante. Donc au départ, quelle était la musique qui vous identifiait, Catel ?
Je pense c'était que plus brutal au départ. C'était plus brutal dans le sens où effectivement il y avait peut-être une connotation qu'on dirait plus rock comme ça dans l'instrumentarium. Sauf que en fait quand on regarde mes grilles d'accords, mes recherches harmoniques et mélodiques, elles sont finalement tout aussi proches de ce que je fais aujourd'hui et qui s'apparentent plus à de la musique électronique à certains endroits. Mais je crois que ce que je cherche avant tout, c'est de trouver une patte mélodique et harmonique, quelque chose de singulier, quelque chose qu'on reconnaît justement, quelle que soit la forme sonore que ça peut prendre. Donc que ce soit du rock, de l'électro, peu importe. Je crois que finalement, ce qui rassemble tout ça, c'est l'esprit pop, c'est-à-dire aller chercher là où on veut, s'amuser avec toutes les plastiques sonores pour inventer des formes nouvelles et en ayant confiance dans ce qui les relie, c'est-à-dire la mélodie, l'harmonie, la voix. Voilà.
Et de votre côté, vous ? Fred Nefché.
J'écoutais avec beaucoup d'attention. Il y avait l'envie d'écrire des textes et de mettre ça en musique. Moi, je voulais plutôt un univers rugueux, le rock, les guitares. Il y a eu une dynamique assez tribale et sauvage au début, puisque la scansion pour moi c'était un geste vraiment de projeter le texte, quoi, de faire sortir ça de mes tripes et de faire des moments de scénique, des moments un peu chamaniques, quoi, de faire sortir la poésie comme ça avait pu l'être dans les années 60, 70, la poésie sonore, voilà, et j'avais envie de mettre ça en musique et de rendre un rêve un peu fou de faire, mais que d'autres ont réalisé avant moi, hein, c'était de faire en sorte que la poésie devienne très populaire. Et donc de la mettre dans ce qu'elle dit très bien, Catel, c'était d'en faire quelque chose de pop. C'est-à-dire qu'un texte qui pouvait peut-être être très alambiqué ou très difficile à comprendre pouvait se révéler dans une chanson, dans une mélodie.
Voilà. Vous aviez d'ailleurs tous les deux au départ cette dimension très littéraire dans les textes et dans la façon de les performer. Alors Nefché, on entre tout de suite dans ce nouvel album, The Unworld Story of Lou Reed, co-signé avec French 79. Lui, les musiques, vous, la voix, les textes, avec d'autres signatures. Il y a aussi Blandine Rinkel du groupe Catastrophe, Christophe Fiat qui est poète et performeur impeccable sur scène. Il y a aussi Renan Chenot, auteur de théâtre que je connais aussi par ailleurs. Mais ils sont tous là et c'est vraiment...
Puis Capucine et Simon Joannin
voilà,
aussi.
Le duo de romanciers. Et vous leur avez tous poser une question, que reste-t-il aujourd'hui de la transgression qu'incarnait Lou Reed et ses chansons ? Je vais ramasser des copies dans une minute. Qu'est-ce que vous auriez répondu, Catel ? Elle dit, merde, ça me tombe dessus.
Oui, merci, je vous remercie beaucoup.
Merci, Laurent.
Moi, il se trouve que je n'ai jamais accroché à Lou Reed. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, je pense qu'il y avait quelque chose qui me gênait dans le... que je prenais en tout cas quand ça m'est parvenu comme quelque chose d'un peu trop poseur. Donc j'ai toujours eu une sorte d'allergie et d'ailleurs dans une de tes chansons tu dis que tu es rentré quand t'as compris le fait qu'il était humble. Tu dis ça un moment et je me suis dit, mais et après je fréquente en ce moment quelqu'un qui est absolument fan de Lou Reed et je compte bien revenir. Donc je me dis, il y a trop de signes là, faut que
non,
je.
Non mais la pause elle était fantastique parce que c'est de l'arrogance.
Bien sûr. Ouais.
Et effectivement, moi j'étais aussi très à distance de lui.
Et, ah vous aussi.
J'étais pas. Le public approprié. C'est-à-dire que ce qui me plaisait chez Lou Reed, c'était qu'il avait. Il a eu une prétention terrible de dire que voilà, en étant écrivain, il voulait donner au rock'n'roll son âge adulte. Il le dit dans une interview à Antoine Decaune absolument extraordinaire où il dit I'm serious, Antoine, je suis vraiment sérieux, je veux écrire comme Shakespeare, comme Othello. Les gens ne comprennent pas.
Ça
me plaisait, voilà, cette prétention. Non, mais c'est cette sorte de promesse qu'on peut se faire quand on est enfant et qu'on veut réaliser quelque chose. Et cette promesse, c'est pas une prétention, c'est un talisman, c'est une promesse quoi qu'on se fait.
Par contre, j'ai toujours adoré sa femme.
Ah, et le travail. Oui, mais on lui rend hommage aussi de façon très discrète dans l'album.
Exactement. On va écouter tout de suite Perfect Day, une adaptation, traduction signée Fred Nefché. Un mot sur l'exercice peut-être?
Eh bien, en fait, avec Simon Énerve et donc French 79, on est très très fan de vocodeur. Et on s'est posé la question de savoir quelle chanson reprendre et on avait envie qu'il y ait deux aspects. Le premier, celui de la balade, la belle balade avec un joli texte, simple. Et de l'autre côté, quelque chose de beaucoup plus vénéneux, virulent, comme Vicious. Mais on avait une envie, c'était la dématérialisation. C'est-à-dire que l'idée finalement, c'était de faire que Lou Reed se dématérialise au profit de ses textes, c'était de faire réentendre Lou Reed. Et puis quelque chose qu'a dit Simon une fois, et j'ai trouvé que c'était très très juste. Donc French 79,
c'est
pas Simon.
S'appelle Simon, donc maintenant
on a compris. C'était que finalement, on savait qu'en faisant cette reprise, on prendrait de grands risques à ne pas plaire à tous les gens qui aimaient cette chanson. Mais finalement, c'était rendre hommage à Lou Reed, c'était rendre hommage à sa provocation, voilà.
Juste un jour parfait à boire de la sangria au parc, puis plus tard, quand la nuit tombe, rentrer chez nous. Juste un jour parfait les animaux au zoo, puis plus tard un film aussi et rentrer chez nous. Oh, un jour si parfait, je suis heureux de le passer avec toi. Oh, un jour tellement parfait, tu m'aides à tenir. Parfait, les problèmes tous envolés dans nos balades le week-end, tellement de rigolades. Juste un jour parfait, tu me fais m'oublier. J'ai cru que j'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien. Passer avec toi, oh, un jour tellement parfait, tu m'aides à tenir le coup, tu m'aides à tenir le coup. Tu récoltes juste ce que tu sais.
Perfect Day, un extrait de The Unreal Story of Lou Reed, un titre énigmatique. Nefché, vous, quelle est votre histoire avec Lou Reed?
Ben en fait, je te disais tout à l'heure, je trouve qu'il représente un certain idéal du poète qui a réussi à faire de
Mais ça veut dire que vous ne l'écoutiez pas avant.
Ben j'écoutais, je connaissais les grands tubes, je connaissais Transformers, voilà, je connaissais ces disques-là. Ça restait toujours, comment dire, une sorte d'idéal, donc je touche pas trop. J'aimais bien écouter ses ballades, j'aimais bien écouter le Velvet. Certaines de leurs morceaux sont vraiment extraordinaires. Mais bon, ça m'aurait pas, comment dire, j'aurais jamais pensé à faire un projet sur Laurie si on me l'avait pas commandé.
C'est un festival, oui, parce que c'est une festival
des autres, ouais.
Alors c'est un album concept qui est un peu à l'écart de votre répertoire, un album pensé pour la scène. Je dis ça parce que quand on voit avec qui vous avez travaillé, bah ce sont tous des bêtes de scène ou en rapport avec la dramaturgie. Donc le poète performer Christophe Fiat, Renan Chenot, Blandine Rinquel, écrivaine et chanteuse de catastrophe. Ça prend quelle forme d'ailleurs sur scène? Parce que vous avez déjà tourné avec ce spectacle.
Alors en fait, le live était prêt, voilà, on a tourné un petit peu, on a fait quelques concerts. Juste avant le premier confinement, on avait fait une première résidence et on a fait deux concerts entre les deux confinements, entre l'été et le début de l'automne, quoi. Donc en gros, il y a un immense écran, on est devant, habillé en plus ou moins en blanc, on va dire en couleur claire. Simon est assis à ses machines et moi je suis debout à dire mes textes et on projette des images qu'on a nous-mêmes tournées et rendues psychédéliques avec un petit kaléidoscope maison. Et on avait envie d'amener les gens, ouais, dans une sorte de voyage, quoi, de road movies, comme une sorte une traversée et d'avoir des images pas spécialement de Lou Reed, pour que justement on puisse prendre bien ces textes et voyager avec. Voilà.
Vous avez dû, j'imagine, réécouter les albums, c'est le minimum, non? Même pas.
non, on les a pas réécoutés, on les a écoutés. Je les fais après. Quand on a fini le disque, un soir, je me suis dit, je vais quand même les écouter, tous ces trucs.
Ah ouais, d'accord.
Je connaissais beaucoup de choses, mais j'ai passé tellement de soirées à traduire ces textes, j'en ai traduit un certain nombre avant de choisir lequel, que j'avais l'impression d'être, je sais pas, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'enfant que devait être Lou Reed.
Ah bah, donc j'ai plongé là-dedans.
Ouais, mais j'ai vraiment, c'est ça que j'avais en ligne de mire, je sais pas comment dire, l'émotion qui me guidait, c'était de ce que j'avais ressenti à l'écoute de certaines interviews et à l'écoute de certaines de ses chansons.
La période des électrochocs, tout ça.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai. Ouais. Mais oui, mais parce que ça m'a traumatisé. Et je trouvais que c'était
peut-être qu'on peut rappeler, en effet.
Oui, voilà, il a été interné parce qu'il était différent. Et aux États-Unis, à l'époque, on traitait les gens différents de façon très simple. On les internait on leur donnait soit des médicaments, soit on leur faisait subir des électrochocs. Et ça, Lou Reed, il en a gardé une trace, je pense, terrible. C'est-à-dire que ce qu'on disait hors antenne, c'est qu'il fait payer à chaque journaliste qu'il interviewe, chaque personne qu'il croise, il fait payer ce qui lui est arrivé, cette revanche sur la société, il l'a eu toujours. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéressait, c'était qu'est-ce qu'était Lou Reed. Et avec Simon, on en a beaucoup parlé, parce que je pense qu'on a ça en commun, sur ce rapport à l'enfance. Et dans la musique de Simon, enfin de French 79, il y a ce rapport à l'enfance, il y a ce rapport aux mélodies simples qu'on garde en soi. Et on voulait avoir accès à cet endroit où Lou Reed s'était fait sa promesse de devenir chanteur, de devenir poète, d'écrire. Ce moment où il se fait cette promesse à lui-même de poser sa pierre à cet édifice qui est l'histoire du rock'n'roll et de la poésie.
Et vous, à quel moment vous avez compris que vous seriez musicien?
Moi, j'ai une conviction, c'est qu'à l'âge de 5 ans, je trouvais que c'était important de faire de la poésie. Mais bon, c'est sûr que je pense que je trouve des points très communs avec Lou Reed. C'est que moi, on m'a raconté énormément d'horreurs quand j'étais petit. Mes grands-parents étant sauvés du génocide arménien. Je suis moitié espagnol, moitié arménien. Donc mes parents arméniens ont pu venir à Marseille, d'autres sont partis aux États-Unis. Et du côté espagnol, c'était l'Espagne franquiste et voilà les terres de mon arrière-grand-père qui ont été spoliées. Donc toutes ces histoires, je pense que ça c'était lourd à porter. Et de façon intuitive, je trouvais que moi, être poète, c'était beau, c'était noble, c'était chouette. Il y avait quelque chose d'important pour moi. Je n'arriverai pas à le dire. Je dis le mot noble sans avoir à trait avec la noblesse. Surtout aujourd'hui avec la dimension que ça prend avec le gouvernement qu'on a, etc.
Qui n'a rien à voir avec la noblesse.
Mais cette idée un peu, tu sais, de la royauté. Donc ça n'a rien à voir avec ça. C'était plutôt une sorte de mission d'écrire.
Et vous, Katel, à quel moment vous avez compris que ce serait aussi votre destin? Parce que vous vivez de la musique depuis... Depuis pas mal de temps, hein, depuis l'âge de 18 ans. Hein.
Oui, voilà, enfin, ouais. J'ai jamais vécu d'autre chose.
Parce qu'il y a eu des groupes, il y a eu un premier label qui vous a signé alors que vous étiez déjà dans un groupe. Mais alors, ça commence à quel moment pour vous ?
Ça commence à peu près au même moment. Enfin, je crois que dès que j'ai su écrire, j'ai voulu écrire des poèmes, des romans. Dès que j'ai su toucher à une note de quelque chose. Enfin, j'avais. La chose qui me tenait à cœur, c'était de transformer le monde qui était autour de moi et de vivre dans mon monde intérieur et de communiquer avec les autres comme ça. Et puis surtout, j'avais en tête l'idée de surtout pas avoir jamais un métier. Et ça,
au CP,
je me disais ça. Quand je suis rentrée à l'école, et je me disais, je voudrais jamais avoir un métier normal, quoi, voilà.
C'est la raison pour laquelle vous en avez plein, en fait.
Voilà,
parce
exactement.
Vous en avez vraiment plein.
Mais c'est vrai que je supporterais pas d'en avoir qu'un, même pas d'être chanteuse connue.
La fin de l'album, Fred Nefché évoque un disque très particulier et pour le coup transgressif dans l'œuvre de Lou Reed. C'est Metal Machine Music en 1975. Extrait de ce que vous en dites dans Alors, il y eut Lou Reed.
Lou Reed envoie tout balader avec MMM. MMM? Non, rien de réjouissant, de pétillant, plus rien de pop. M comme métal, M comme machine, M comme musique. Ça fait métal, machine, musique. Il était temps qu'on entende quelque chose de monstrueux. Il était temps qu'on entende quelque chose d'impossible. Il était temps qu'un bruit encore plus long qu'une phrase sèche et brutale nous fasse du mal. Voilà.
Donc, au tout début de ce petit montage, il y a donc la voix de Fred Nefché sur une musique de French 79 avec un texte de Christophe Fiat. Ouais. Et là, ce qu'on écoute après, c'est cet album dont vous parliez, Metal Machine Music. On est en 75. Vous connaissez cet album? Vous voyez le genre?
Pas du tout, mais là, j'adore.
Voilà. 1975, alors même que Lou Reed a un certain succès, une certaine renommée, il a déjà des fans, un label, ça marche bien. Et il produit ce disque, absolument apocalyptique à l'époque, puisque même le label va retirer le disque au bout de je sais pas combien de temps, de quelques mois. C'est un album que vous avez écouté en entier?
Oui, on l'a écouté, oui. Ouais, en entier, non.
Mais non, en entier.
Non, mais on l'a écouté, ouais, avec Simon, on l'a écouté. On l'a écouté pour voir qu'est-ce que c'était, tous ces larcènes, se replonger dans ce moment de furie, d'auto-sabordage, voilà. D'envie de se... Et puis de comme s'il voulait refuser toutes les... Ouais, encore une fois, c'est le rejet de la société qui lui a fait autant de mal, de dire non, je ne veux pas de tout ça, et pourtant... Ouais. C'est très étonnant, c'est très intriguant hein, comme attitude, mais il a placé, je crois, l'art à un degré très haut d'intégrité. Et de finalement, à un moment donné où il arrive au succès, non, mais je suis pas... C'est comme s'il disait, mais je suis pas venu ici pour avoir du succès, Et je trouve ça passionnant, je trouve ça intéressant, je trouve que ça ne cherche pas à avoir des prix ou ce genre de choses-là.
Ouais, je suis venu là pour vous casser les oreilles au vrai sens du terme, au sens littéral du terme.
Ouais. Et vous me remercierez de ne pas avoir eu de complaisance. Il dit presque une chose comme ça, quoi. Je ne suis pas complaisant, vous me remercierez. C'est très étonnant. Moi, je trouve que ça remet de la vigueur sur l'engagement, sur le fait d'écrire des textes politiques, sur le fait de se positionner, le fait d'ouvrir des brèches, de poser des questions. Et délicatement, j'avais envie de poser des questions dans ce disque avec Simon. On avait envie de se dire qu'est-ce qu'on va faire comme musique, qu'est-ce qu'on doit faire comme musique, qu'est-ce qu'on a à raconter dans les chansons, c'est quoi les sujets aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, comment... Voilà, on se posait toutes ces questions, ça a été un phare un peu, oui, ça nous a un peu guidés.
Fred Nefché, qu'a-t-elle vous rester avec nous? Marion a rendez-vous avec Dolly Mignanas dans quelques instants. Le temps d'écouter Françoise Brut, que vous connaissez peut-être, qu'a-t-elle, parce que vous étiez sur le même album, La Maison Haute de Bastien Lallemand. Vous la connaissez?
Je la connais pas personnellement, mais bon, je connais bien sa musique, ouais.
Ben voilà. Ses péchés s'accumulent dans Côté Club.
Je n'ai pas attendu. Canicule pour sentir nos corps qui brûlent, nos langues en feu, mon prince, mon Dieu, j'entends nos membres qui crépitent du feu de l'apothéose. J'ai faim et soif de bien des choses. Je t'effleurerai jusqu'à l'usure, main ondoyante sur nos fourrures. Je vois tes veines qui palpitent.
Inter.
Marion, il paraît qu'il faut que je vous lance, mais saurez-vous vous rattraper?
Je me rattrape à quoi? Allez, à Fred Neffché, il est assis juste à côté de moi. Il y a du mariage dans l'air en ce moment, entre les genres musicaux, Feu Chatterton, Arnaud Rebottini, Fred Neffché avec French 79, et puis voilà, les Liminianas, le duo le plus supersonique de l'Hexagone, qui convole avec le parrain de la techno, Laurent Garnier. La dernière fois qu'on avait eu des nouvelles de Marie et Lionel, c'était l'été dernier, avec ce titre.
Calamares. Nu sur la plage.
Chipirones.
Je joue du sitar.
Bocadillos.
Je sais.
Mejillones.
Tu es accablé.
Calamares. Chipirones. Bocadillos.
Tu répètes sans cesse.
Mejillones.
Les mêmes mots.
Beba Fanta. Chupachups.
Calentita, un faux hit de l'été 74, comme ils disent. Et vous allez l'entendre, alors les clubs sont peut-être toujours fermés, mais la discothèque catalane des Liminianas, elle reste ouverte. Bonsoir Lionel.
Bonsoir.
Vous êtes avec Marie à côté
de
vous?
Oui, elle est à côté là.
Bonsoir Marie.
Ah. Il y a Marie qui dit bonsoir aussi.
D'accord, oh, Marie.
Bah, tout le monde vous dit bonsoir ce
Marie,
soir.
Marie, fais un tout petit effort pour moi, dis-moi bonsoir.
Dis bonsoir Marie.
Madame, c'est le
bienvenue bonsoir tous les deux dans Côté Club. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a un an. On était tous confinés, vous faisiez de la musique et du pain. Et vous nous aviez confié un titre de votre premier groupe, Les Bellas. Depuis, vous avez bouclé l'enregistrement d'un nouvel album avec Laurent Garnier, une figure de la techno. Et je me demandais quelle relation vous entretenez avec ce genre musical. Est-ce que vous en écoutez? Est-ce que vous alliez en club, en rêve, quand on avait encore l'occasion de le faire?
Non, pas du tout. C'est vraiment une musique que je connais plutôt par mes grands frères, surtout mon grand frère Serge, qui était vachement fan de groupes du label, d'artistes du label Underground Resistance, de choses comme ça. Mais moi, c'était pas vraiment ma culture. En fait, nous, le lien avec Laurent s'est fait via son festival, le festivalier à Lourmarin, où il nous a invités avec les Limianas deux fois, et on est devenus amis, et c'est comme ça qu'on a eu envie de faire de la musique ensemble.
Alors Laurent Garnier, il avait également signé un remix en 2018 de Dimanche, oui, un de vos titres, oui, avec Bertrand Belin. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller plus loin avec lui? Sur quoi vous vous êtes retrouvé?
Bah déjà, je pense que ce qui nous lie, ce qui lie la musique électronique et la musique qu'on aime, Marie et moi, c'est il y a toujours cette histoire de riff et de trance, j'imagine, qu'on va retrouver à la fois dans la musique que joue Laurent et qu'aime Laurent, et dans des groupes comme les albums des premiers Stooges, par exemple, ou des groupes comme Suicide ou Cannes. Je pense que tout ça, ça parle de la même chose et ça provoque les mêmes sensations, finalement. Et c'est pour ça que c'était facile d'enregistrer ce disque. C'est parce qu'on s'est vraiment retrouvé autour de cette idée de riff et de répétition et d'essayer d'aller vers une forme de trance. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu, Marie et moi.
C'est votre langage commun?
Je crois bien, oui. Ça et plein d'autres choses. Et puis l'envie de rigoler aussi, parce qu'on s'est beaucoup marré avec Laurent. Et on aime bien manger aussi. Enfin voilà, on a des tas de choses en commun.
Alors, on va rentrer dans le côté pratique. Alors c'est un album qui s'est conçu comment? Est-ce que vous étiez chacun dans votre home studio, avec des échanges de fichiers, un truc très froid, ou au contraire, il y avait une ambiance cuisine, on joue, on mange?
Alors, on n'a rien enregistré, malheureusement, en même temps et dans la même pièce, parce qu'on a vraiment fait ça entre le pur confinement et les breaks de l'été dernier, quoi. Enfin, surtout l'été dernier, d'ailleurs, mais c'est vraiment un disque qu'on a fait par correspondance. Mais c'était vachement naturel, en fait. C'était vraiment une espèce de ping-pong d'idées, de coups de téléphone hilar, que ce soit moi qui était à la plage avec Marie et Laurent en studio, ou l'inverse, quand on rentrait, où on s'envoyait tout le temps d'ailleurs des photos de ce qu'on était en train de manger ou de préparer à manger, ou des fichiers audio de riffs qu'on avait trouvé la veille, enfin des choses comme ça. Ça s'est fait vraiment d'une manière très à la fois assidue et détendue, je dirais.
Lionel, c'est vous qui chantez sur ce nouveau titre, avec un chanté-parlé en français, ça fait inévitablement, ouais, bien sûr, penser à Gainsbourg. On a commémoré les 30 ans de sa mort en 2021, début 2021. Est-ce que vous avez une période préférée? Parce que moi, naturellement, les premiers titres me font inévitablement penser à Mélodie Nelson de Gainsbourg.
Ouais, oui, ça c'est, je pense que c'est le disque de Serge Gainsbourg que j'ai le plus écouté. Je l'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup écouté. Mais j'aime aussi tout ce qu'il a fait en termes de production dans les années 60 avec des tas de chanteuses françaises ou de chanteurs qu'on adore. Mais je pense qu'effectivement, moi, ma période préférée, c'est sa période anglaise et puis celle de la fin des années 60, quoi.
Alors ce nouveau titre, il a un prénom, c'est Saul. Qui est-il, ce personnage?
Alors Saul, c'est un des deux personnages principaux de cet album qui s'appelle De Pellicula, qui va sortir en septembre chez Because. Et c'est le héros de... Je peux pas vous en dire beaucoup, parce que j'ai promis de pas trop dévoiler de trucs, mais...
Quand même. Attends, c'est Marie qui vient de faire tomber un truc à côté.
C'est l'un des deux personnages principaux d'une histoire d'amour, en fait, d'un road trip, qui va être le lion de cet album, quoi.
Ça veut dire que De Pellicula, je vais avoir le temps d'ici septembre de le prononcer correctement, mais De Pellicula, c'est un concept album?
C'est un album qui raconte une histoire, en tout cas. Concept album, c'est un peu... Je ne sais pas si on peut parler de concept album. C'est vraiment un album qui raconte une histoire, oui.
Merci beaucoup Lionel. Merci Marie.
Bah, merci à vous.
À très bientôt. Tout de suite, on fait
à
connaissance avec Saul dans Côté Club.
Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique. We'll be right back. carnaval des années 60. Elle a 18, 19 ans. Elle est jolie et douce.
Un premier aperçu de Soul ce soir dans Côté Club. Le titre dure 5 minutes 38. C'est absolument superbe. En attendant l'album des Pellicula, c'est prévu normalement le 21 septembre. Ça vous plaît ce mariage, Fred Neffcher ?
Ah ouais, je trouve le son incroyable.
Ouais.
C'est hyper beau. Hyper profond, les guitares, les arrangements de boucles, les rythmiques comme ça, mélange, transfert. C'est vraiment c'est magnifique.
On va patienter.
Ah ouais.
Côté club.
On pourrait écouter chez moi ou dans un club.
Sur France Inter.
Autour plateau avec nos invités, donc Fred Neffcher et Katel. Katel qui fait absolument tout. Elle est autrice, compositrice, interprète, réalisatrice d'albums, cofondatrice du label Fracas, avec même un studio d'enregistrement. Elle est musicienne, femme engagée sur le plan politique, sur les questions LGBT, féminisme militant et active jusque dans la musique avec le programme de mentorat. Ça consiste en quoi? Ça s'appelle
C'est un programme qui s'appelle MEWEM. C'est un programme européen qui vise à ce que des femmes entrepreneuses de la culture un peu plus aguerries,
ce que vous êtes,
voilà, ce que je suis devenue apparemment, puisqu'on m'a demandé d'en faire partie, aident d'autres, des jeunes femmes entrepreneuses qui ont envie de lancer des projets, à développer leurs projets. Voilà, c'est un programme qui essaie de briser un peu le fameux plafond de verre des femmes dans le monde de la musique.
Être tout ça à la fois, est-ce que c'est aussi pour ne pas être dépendante uniquement de ses albums, de ne pas être simplement la chanteuse connue, comme vous disiez tout à l'heure? Vous n'aimeriez pas être simplement une chanteuse connue, Katel?
Non, pas du tout. Je crois que j'ai fini par me le dire, vraiment. C'est effectivement pas un but en soi. J'ai très envie de garder une liberté totale artistiquement parlant. Donc ça fait dès mon deuxième album, je me suis dit que l'idée pour moi c'était de ne pas vivre de ma musique, mais de vivre de la musique et de faire de l'endroit où moi je fais de la musique, ma propre musique, un endroit absolument vierge de toute demande extérieure.
Et ça marche depuis l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, quatrième album Mutant Merveille. Alors je disais passionnant en ouverture car coupé en deux avec comme axe, comme pivot, la reprise d'un titre qui ne vous appartient pas, un titre de Gainsbourg pour France Gall.
De la dernière pluie de la nuit, nous sommes tombés toutes deux amoureuses. Attends le jour où cet amour ne sera plus un jeu. Attends, va-t'en, mais ne pleure pas. Attends.
Donc, une chanson des années 60 que vous avez totalement réarrangée avec un xylophone, c'est ça, hein?
Avec un vibraphone.
Un vibraphone.
C'est Lucie Antunes, une musicienne que vous avez peut-être déjà
reçue, voilà, ouais,
qui a sorti un album et qui avait fait une série de reprises avec plusieurs chanteurs et chanteuses qu'elle aimait. Elle leur a proposé de faire une reprise et j'ai choisi ce titre-là et je lui ai demandé de jouer au vibraphone avec un arrangement à la Steve Reich.
Exactement. Musique minimaliste et répétitive. Alors qu'au départ, Gainsbourg et France Gall, c'est plutôt ça. En écoutant votre reprise de France Gall, moi je me suis demandé qu'est-ce qu'elle pouvait représenter pour Katel, parce que France Gall était chanteuse, toujours associée donc à Gainsbourg pendant une période, Michel Berger dans une autre période. Vous qui êtes auteur-compositrice, qu'est-ce qui vous intéresse chez France Gall?
Chez France Gall, ce qui m'a toujours intéressé, c'est son sens inouï du groove en tant que chanteuse. Je trouve qu'elle fait vraiment... Elle a un balancement, une manière de placer ses mots, et c'est pas pour rien qu'elle a attiré des musiciens comme Gainsbourg, Michel Berger. Et puis j'adore ce mélange de fausse naïveté, de profondeur, parce que cette chanson, c'est une chanson très grave en fait. C'est une chanson noire, une chanson qui est très loin justement de la naïveté qu'on peut lui prêter. Et voilà, j'adore ça chez elle, quoi. Et je trouve que c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un concert, c'était France Gall.
C'est vrai?
Ouais.
La période où...
la période des branches. Des branches, revenons à nous.
Parfait. Donc, un album coupé en deux avec cette chanson noire qui fait basculer justement votre album dans un côté plus sombre, avec une deuxième partie aux titres étranges, comme ce géographique, je voulais qu'on écoute. Un mot peut-être sur ce titre, sur sa composition, que vous allez voir, Fran Nefché est absolument incroyable. Elle ne cesse d'évoluer dans des registres de plus en plus savants.
Bah, disons que c'est vraiment le type de chanson qui pour moi réunit beaucoup de choses que j'aime, notamment effectivement des boucles qui font penser à la musique sérielle, des boucles qui tournent sur des mesures impaires et qui sont jamais les mêmes selon les instruments qui jouent, et puis le tout évidemment porté par une mélodie, qui fait qu'on se fiche pas mal de tout ce que je viens de dire au final. Ce qui compte c'est l'élan, la tension. C'est des choses que j'aime chez des musiciens, bon je vais citer des grands hein, tant pis, mais chez des musiciens comme Radiohead ou chez Björk, d'avoir une sorte de rage et de tension qui a comme contrepoint effectivement quelque chose de très savant dans les arrangements.
Géographie. Qu'est-ce que vous écoutiez quand vous avez écrit les titres, notamment de la seconde partie de cet album?
J'écoute beaucoup de hip-hop en vrai. J'écoute les albums que j'ai écoutés le plus ces derniers temps, c'est Kendrick Lamar, c'est Frank Ocean, Tyler the Creator. Même le troisième Rihanna, que j'adore. Mais finalement, c'est vrai que j'ai toujours écouté de la musique soul ou hip-hop. Ou je viens de Prince, en vrai. Et ça s'est jamais entendu trop dans mes albums précédents. Mais je crois que plus je deviens productrice, réalisatrice, plus j'ai cette casquette-là, on va dire, plus c'est devenu mon instrument principal, en fait, la production. Comme un instrument, c'est-à-dire que j'aime me retrouver à construire mon architecture intérieure et faire tous les instruments et puis partir dans mon ordinateur comme dans un paysage que je construis.
Alors ça c'était pour la deuxième partie. Maintenant on va revenir à la première partie, c'est-à-dire le début de l'album qui est plus frontalement politique, hein, qui qui est, c'est d'ailleurs le sous-texte politique était assez présent dans un album signé par une féministe intersectionnelle, je ne me trompe pas, je pense.
Voilà.
Je pense par exemple au titre Joyeusement militant Rose Chou, un hymne queer, une prise de position dansante sur la question du genre qui marque la différence avec l'ancien monde. On voit bien qu'il y a une dimension plus pop, plus évidemment dansante dans la première partie. J'aurais pu aussi passer le titre, par exemple, qui ouvre l'album, qui s'appelle « Sauf qu'on l'arrête », où il est question de violence policière, de l'affrontement de deux conceptions du monde, l'ancien et le nouveau que vous incarnez. Est-ce que ce positionnement politique, c'est aussi une histoire familiale chez vous, Katel ?
Oui, je viens très clairement d'une famille de gauche qui même quand Mitterrand a été élu a considéré que c'était la droite qui avait gagné. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a des fondations très claires. Et puis voilà, et je pense que je crois que tout est politique en vrai, tout positionnement, y compris même l'amour est politique, je le crois, et la musique aussi, pas seulement à l'intérieur des textes, pas seulement avec ce qu'on dit dans les textes, mais aussi dans quelle musique on fait. Il s'agit pas juste de dire un texte politique,
et la façon même dont on le fait.
Voilà, et si la musique elle-même n'essaie pas d'opérer une révolution, au moins entre soi et soi, alors ça sert à rien d'appeler la révolution, ça c'est sûr.
Alors quelque chose aussi a changé depuis vos débuts. Moi j'ai réécouté le premier album, et dans le premier album l'écriture était de la musique était, on va dire, un peu plus brutale, mm-hmm. et les textes étaient beaucoup plus littéraires, enfin ils se déployaient, ils étaient beaucoup plus longs, et quelque chose a changé aujourd'hui justement, je trouve, dans la conception des textes et de la musique.
Oui, ça a changé, c'est vrai que j'ai eu à cœur d'écrire des choses plus courte, alors moins littéraire. C'est vrai que j'avais un vocabulaire assez riche au début. Aujourd'hui, j'essaie de, disons que c'est la phrase qui m'intéresse plus que le mot en lui-même, et j'essaie d'ouvrir des champs des possibles avec des phrases plus concises, plus courtes, des mots plus simples, mais qui pour autant, là on parlait de la première moitié ou la deuxième moitié, géographie c'est un titre très politique, ça parle de la colonisation, des corps, par la langue, quelle est la géographie qu'on impose dans le monde, en chasse, ça, voilà, enfin, tous les titres de cet album sont politiques dans le sens où ils parlent du corps, voilà, du corps comme
vous écrivez la musique en même temps que les textes.
Alors, pour la première fois sur cet album, il y a trois titres dont j'ai écrit le texte avant de faire la musique. Ce qui ne m'était jamais arrivé. D'habitude, je fais vraiment les deux en même temps. Et avant, d'ailleurs, je faisais la musique en même temps que le texte. Maintenant, je fais même la production en même temps que la musique, en même temps que le texte.
On écoutait Michel Sardou, c'est vous ?
Comment ?
On écoutait Michel Sardou chez vous ?
Mais pas du tout, non, c'est incroyable ça alors. C'est...
Je peux bien imaginer. Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous ?
Bah, on écoutait beaucoup de choses. Moi j'ai été élevée et à la musique contemporaine, et au jazz jusqu'au free jazz, et à Frank Zappa, et au rock des années 70, tout ce qui était un peu, tout ce qui cherchait quand même, quoi. Ça c'est sûr que j'ai été élevée à ça. Et en français, c'était Brigitte Fontaine et puis Brassens. Mais disons qu'il y avait un lien dans la musique qui passait chez moi, c'était que on n'aimait pas trop la musique, romantique, quoi. On aimait bien que ce soit acéré.
Eh bien, on va se quitter avec Iseult, qui, comme vous, travaille son indépendance et elle connaît le prix à payer pour maintenir son exigence politique et ses revendications artistiques. Et ça paye. Aujourd'hui, 15 millions d'écoutes, single d'or avec le titre Corps, une signature indélébile dans Côté Club.
Un télépile est ton prénom. Tu sais très bien que je vais céder la première. Tu sais très bien comment me faire vriller la première. Tu connais la chanson, ne me mens pas. Tu connais mes envies, j'en passe et j'en passe. Tu sais très bien que je veux céder la première. Je ressens dans mon corps, dans ma tête. Je le sens. Comment me faire rêver, tu sais faire. Tu sais très bien comment te défiler, tu sais faire. Tu connais la chanson, ne me mens pas. Je connais toutes tes vies et j'en passe et j'en passe. Tu sais très bien que je veux replonger la première. Je ressens dans mon corps, dans ma tête, je le sens.
Isolde qui aura le mot de la fin, parce que oui, c'est la fin ce soir de Côté Club. Merci Nefché, merci à vous.
Merci à vous, c'est chouette de vous voir.
Je rappelle cet album en collaboration avec French 79, The Unreal Story of Lou Reed. Katel, merci.
Merci beaucoup.
Quatrième album, Mutant Merveille, on peut dire que le titre en est le meilleur commentaire. Marion.
Soul, c'est le nouveau titre d'Eli Mignonas avec Laurent Garnier, à découvrir sur toutes les plateformes.
Demain, peu de voyelles mais beaucoup de consonnes avec des Y et des X, on se croirait au Scrabble. On a rendez-vous avec Mead et Saint-DX, l'incarnation du crooner contemporain.
Et Zoom sur l'épopée verte, un documentaire qui rassemble Terre Noire, Fischera, Zedio de Pavarotti et les autres héros de la scène stéphanoise.
Côté club, on ferme. Alors je vous souhaite le bonsoir.